Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Les terrasses, les concerts, la fête de la musique, le pire est peut-être derrière nous, mais pour certains, eh bien, les choses ne se passent pas aussi bien que cela parce que certains de nos compatriotes, mais aussi un peu partout dans le monde, des gens finalement se font mal à ce déconfinement, d'où la tentation de l'auto-confinement. Pour en parler, nous sommes en duplex avec André Comte-Sponville. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, on vous doit notamment le dictionnaire amoureux de Montaigne et que le meilleur gagne aux éditions Robert Laffont. Et puis Sophie Braun, bonjour. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Vous venez de publier La tentation du repli aux éditions Mot Conduit. Comment les choses se passent-elles pour ceux de nos compatriotes qui sont aussi, pour certains, vos patients qui considèrent que ce déconfinement ne va pas de soi?
Bonjour. Je crois qu'il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui ont du mal effectivement à ressortir. Et d'abord, la première chose, c'est de leur dire que c'est normal. On ne va pas sortir de cette période du Covid comme on y est entré. Ça a vraiment modifié, je crois, les individus, les angoisses, le sentiment que l'autre est toxique. Alors, c'est un phénomène qui existait déjà bien avant et j'ai commencé à écrire ce livre, moi, La tentation du repli, il y a déjà 5 ans, parce que je voyais les gens se replier sur eux et s'isoler de plus en plus. Le Covid est comme une loupe qui est posée sur ces phénomènes, l'ensemble de ces phénomènes qui menaient à l'isolement et à la solitude intense. Et je crois qu'il est très important que nous prenions en considération ces gens qui ont du mal à ressortir et que nous les aidions à ressortir, parce que sinon, nous risquons d'avoir une énorme épidémie de gens qui vont de plus en plus rester chez eux et s'isoler.
Comment s'est déroulée cette traversée du Covid, par exemple, pour les personnes que vous suivez en psychanalyse ou en psychothérapie, Sophie Braun? Il y a eu différents profils, j'imagine?
Bien sûr, c'est différent pour chaque personne, mais on peut globalement penser que les gens qui sont des introvertis et des introvertis heureux, c'est-à-dire des gens qui ont une vie intérieure riche, ont adoré cette période. Et il y a vraiment des gens pour qui ça a été une des meilleures périodes de leur vie. À l'inverse, des gens qui sont des extravertis, c'est-à-dire pour qui la vie extérieure est importante, la vie matérielle est importante, ont très mal vécu cela. Il y a aussi la question des fragilités psychiques. Les gens qui étaient déjà angoissés et fragiles sont évidemment ressortis encore plus fragiles de cette période. Donc on a deux extrêmes et puis après on a évidemment toutes les nuances possibles à l'intérieur de ces deux extrêmes.
Qu'en pensez-vous, André Comte-Sponville, la manière dont ce confinement se déroulait et puis ce déconfinement aujourd'hui, quelle perspective ouvre-t-il?
Écoutez, je suis partagé. J'ai trouvé que les Français ont fait preuve de beaucoup de discipline, de beaucoup d'obéissance, plus que ce à quoi je m'attendais. Les Gaulois réfractaires se sont devenus de dociles, je ne dirais pas petits agneaux, ce qui serait désobligeant, mais de dociles citoyens. Vous savez, ce qui m'étonne, c'est qu'en Suisse et en Allemagne, où le confinement était beaucoup moins strict que chez nous, il y a eu des manifestations contre le confinement. En France, au contraire, où c'était l'un des confinements les plus stricts d'Europe, il n'y a pas eu de manifestations. Donc ça m'a surpris. Alors ça se comprend très bien par l'exigence de solidarité. Et moi-même, j'ai toujours dit qu'il fallait respecter le confinement. Mais il y a eu d'abord donc cette espèce d'obéissance, de discipline, de sérieux, pourrait-on dire. Quant au déconfinement, alors moi, je ne suis pas psychanalyste, je n'ai pas de patient à charge, mais je suis quand même surtout frappé par l'espèce d'explosion de joie et de liberté qu'on sent dans les rues de nos villes. Moi, j'habite à Paris, là, actuellement, je suis à Nantes, et dans les deux cas, il y a une floraison de terrasses qui sont bondées de gens, notamment beaucoup de jeunes gens. J'ai le sentiment que, pour la plupart des gens, ce confinement se passe bien, que c'est un moment heureux, et au fond, c'est très compréhensible. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des cas, alors, soit pathologiques, soit des cas simplement particulièrement difficiles. Vous savez, la peur est toujours mauvaise conseillère. J'ai souvent cité pendant les confinements la formule de Montaigne, « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Et je crois en effet qu'on ne peut pas impunément susciter la peur dans toute une population sans qu'il n'y ait des dégâts. Et donc ce qu'évoque Sophie Braun, je crois que ça fait partie des dégâts entraînés par ce que j'appellerais volontiers cette politique de la peur. Il fallait évidemment combattre cette pandémie, il fallait évidemment respecter les gestes barrières, accepter le confinement puisque nos politiques l'avaient décidé, mais c'est trouvé que la communication gouvernementale et aussi le travail de vos confrères, des journalistes, notamment sur les chaînes de télévision, était exagérément anxiogène. Pour une maladie qui n'était quand même pas si catastrophique que ça, l'humanité a connu des pandémies infiniment pires que celle-ci. Donc voilà, et je pense que globalement, ce déconfinement se passe bien et c'est normal. Mieux vaut être libre que contraint ou qu'enfermé. Mais il n'est pas étonnant qu'une telle débauche de peur finisse par produire, au moins chez certaines personnes, des effets pervers.
Votre réaction, Sophie Braun ?
Alors, par définition, les gens qui restent chez eux aujourd'hui, on les voit pas. On voit effectivement les jeunes qui sont en pleine forme et qui sortent, et tant mieux. Et ça fait partie, c'est leur énergie de vie.
On peut également être jeune et ne pas sortir de chez soi, puisque j'imagine que parmi ces personnes que vous décrivez qui n'arrivent pas à se déconfiner, il y a aussi des jeunes.
Bien sûr. Je crois qu'il y a des gens de toutes les générations aujourd'hui, mais effectivement, on ne les voit pas puisque par définition, ils restent chez eux. C'est extrêmement difficile aussi de les dénombrer. Déjà, avant le Covid et avant la loupe que le Covid est venu poser sur ce phénomène, il était difficile de les dénombrer parce qu'il y avait des dénominations différentes. On parlait de phobie scolaire, on parle de phobie sociale, on parle de burn-out grave, on parle de charge mentale aussi aujourd'hui, on parle de dépression évidemment. Et en fait, je crois que derrière justement ces dénominations différentes, il y a un phénomène assez grave qui est en train de se développer en souterrain, qui est la peur de la relation, la peur de l'autre comme étant toxique et le repli sur soi. Et je crois qu'il faut qu'on distingue aujourd'hui, le virus est toxique, les gens ne le sont pas. Et il faut qu'on rappelle cela, c'est vraiment un virus qui est toxique. Alors, moi j'aime beaucoup le vers de Borges qui dit « ce n'est pas l'amour qui nous unit, c'est l'effroi ». Je pense que quand il n'y a plus assez de projets collectifs pour tenir une communauté, la peur et l'effroi peuvent prendre le relais. Et c'est peut-être cela qui s'est passé aussi pendant le Covid, qui commençait déjà avant, mais qui s'est amplifié avec le Covid. L'effroi fait ciment, l'effroi fait le lien entre les gens.
Peur de quoi ?
Et ça, c'est terrible. Alors, peur de énormément de phénomènes. Je vais juste en citer quelques-uns, mais il y en a beaucoup. On le sait aujourd'hui. D'abord, peur de l'autre. L'autre est vraiment devenu toxique. Peur de la mort, évidemment.
Qu'est-ce qui peut vous faire, l'autre ?
L'autre, quand vous êtes fragile psychiquement, quand vous vous sentez fragile, l'autre devient un ennemi parce que il va vous faire ressentir des humiliations. On devient tous, je crois, de plus en plus susceptibles. C'est le revers de l'individualisation. Qu'est-ce que c'est l'individualisation ? C'est le fait de se sentir de plus en plus des individus qui peuvent faire les choix de leur vie. Nous élevons aujourd'hui les enfants et nous sommes en tant qu'adultes convaincus que nous avons tous les choix. En tout cas, avant le Covid, c'était comme ça. On pouvait choisir nos études, on pouvait choisir notre conjoint, on peut choisir d'avoir des enfants et maintenant on va bientôt choisir lors de notre mort. C'est beaucoup pour nos petites épaules d'humains, c'est vraiment beaucoup. Et comment est-ce que face à ces choix qui nous sont ouverts et qui sont, je crois, des véritables révolutions anthropologiques, une véritable révolution anthropologique, nous sommes la première génération à pouvoir choisir tout cela. Comment est-ce qu'on nous éduque à faire ces choix ? Je crois que malheureusement, on ne nous éduque pas, on ne nous prépare pas. On se retrouve avec des choix terribles sur nos fragiles épaules sans avoir aucun mode d'emploi. Alors, pour la plupart des gens qui en plus arrivent au collège, arrivent au lycée, arrivent en entreprise et se rendent compte que finalement on ne prend pas tellement en compte leur vie intérieure, leurs désirs et la dignité humaine, il y a quelque chose qui explose et qui amène au repli sur soi. On va rester chez soi parce que le monde est trop difficile.
Ce n'est pas un peu votre rôle, André Comte-Sponville ? Les philosophes devraient, malgré tout, nous apprendre, sinon à vivre, du moins à affronter le monde extérieur ?
Non seulement c'est mon rôle, mais je l'assume tranquillement. L'un de mes derniers livres s'appelait « Contre la peur » et je crois que c'est l'une des fonctions de la philosophie que de combattre la peur. Et je l'ai fait d'ailleurs pendant la pandémie en m'étonnant de l'espèce d'exagération qu'il y avait dans les médias vis-à-vis de cette maladie. Je le ferai aussi bien d'ailleurs vis-à-vis de ceux qui s'autoconfinent, qui ont peur de l'autre, comme disait Sophie Braun, qui ont peur de la mort. Moi, au fond, vous savez, ce qui me surprend le plus, c'est que, au fond, les gens qui s'enferment, qui s'autoconfinent, qui renoncent à une bonne part de leur liberté par peur de la mort, ils n'en mourront pas moins. C'est ça le paradoxe, si vous voulez. C'est que, au fond, on ne risque jamais que de mourir. Et donc, ce n'est pas si grave, puisque nous mourrons de toute façon. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé dès le début de cette pandémie, c'est que la mort, qu'on faisait tout pour oublier, tout d'un coup revient. Et catastrophe, scoop extraordinaire, on redécouvre que nous sommes mortels. Bah oui, on l'a toujours su. Et ce que j'essaye d'expliquer, et Montaigne l'a montré génialement, c'est que si on n'accepte pas d'être mortel, évidemment, la peur de la mort envahit tout. Et c'est ce que Montaigne décrit très bien dans les essais. En deux moments, il y a ce que j'appelle la forclusion de la mort. Les gens qui font tout pour oublier qu'ils vont mourir. Et Montaigne écrit « Ils vont, ils viennent, ils courent, ils dansent. De mort, nulle nouvelle. » Ils font tout pour oublier qu'ils vont mourir. Et puis, patatras, continue Montaigne, tout d'un coup, si la mort les frappe ou frappe l'un de leurs proches, alors c'est l'angoisse, la détresse, le désespoir. Et Montaigne ajoute, il faut y pourvoir de plus bonheur. Autrement dit, il faut penser à la mort avant d'être sur le point de mourir. Et si on n'accepte pas d'être mortel, inévitablement, la peur de la mort envahit tout. Et il y a de ce point de vue un paradoxe effrayant, si j'ose dire, à gâcher sa vie par peur de la mort. Et ça a été une partie de mon combat aussi pendant les différents confinements, de dire attention, ne sacrifions pas l'amour de la vie à la peur de la mort. Et j'ai eu le sentiment pendant des mois qu'en effet la peur de la mort envahissait tout et qu'on en oubliait d'aimer la vie. Et bien le rôle des philosophes, c'est le contraire. Face à la peur de la mort, il n'y a au fond que l'acceptation, nous mourrons tous. Face à la vie, au contraire, il y a l'amour de la vie, le courage, l'action, la relation à l'autre, et que l'autre devienne toxique, comme disait Sophie Braun, je ne conteste pas du tout le cas pour certaines personnes, mais ça devient effrayant. Si la vie elle-même, et au fond la vie est toxique au sens où elle est mortelle, nous allons tous finir par mourir, si on se polarise sur la mort au lieu de se polariser sur la vie, je crois que c'est un contresens complet sur la condition humaine, et ce contresens, il a eu lieu pendant la pandémie, laquelle n'est pas forcément terminée, rappelons-le, il y a la question des variants, mais il a eu peur au plus fort, il a eu lieu ce contresens au plus fort de la pandémie, il n'est pas étonnant qu'il ait lieu aussi, alors me semble-t-il dans une moindre mesure, au moment du déconfinement.
Qu'en pensez-vous, Sophie Braun, vous qui êtes psychanalyste et psychothérapeute ?
Je pense que vous avez totalement raison, André Comte-Sponville. Après, comment fait-on pour retrouver ce goût de vivre et ne pas être envahi par, effectivement, le mortifère ? Freud disait que quand même la chose peut-être que nous ne savons pas nous représenter, c'est notre propre mort. Et c'est quand même ça véritablement une question. Après, si l'épidémie se répand, l'épidémie d'isolement et l'épidémie de solitude, et cela on le voyait déjà bien avant effectivement la pandémie, c'est quand même parce qu'il y a des causes sociales. Je pense qu'il faut que la psychanalyse aujourd'hui sorte de la question de l'intime en tant qu'intime isolé et commence à se poser la question, ce que plein de psychanalystes font par ailleurs, de quelles sont les causes sociales qui interviennent et comment est-ce que les psychismes individuels métabolisent ces causes sociales. Nous sommes clairement aujourd'hui dans une question de maladie du désir. L'individu désire de moins en moins, supporte de moins en moins la frustration. Et je crois que là-dessus, le consumérisme...
Expliquez-nous ça, parce que si on désire de moins en moins, ça veut dire qu'on est moins frustré qu'auparavant, puisqu'on a moins de désir.
Alors je crois pas. Je crois que on a des désirs qui vont de plus en plus vite en fait. Je l'ai mal dit. Vous avez raison. Nos désirs liés à la possession d'objets matériels et le fait que notamment les publicitaires et le consumérisme relient la question de la possession de l'objet à la valeur de l'individu et donc à son narcissisme. Le résumé de cela, c'est le slogan de L'Oréal « Parce que je le vaux bien ». Parce que je le vaux bien, ça veut dire que si je n'ai pas ce mascara, je ne vaux rien. À partir du moment où on a relié la valeur de l'individu à la possession d'un objet, on va avoir un besoin effréné de posséder des objets. Et c'est pas un besoin simplement matériel, c'est un besoin finalement ontologique. Notre valeur dépend de cela. Et là, c'est très grave parce que on va avoir en permanence, et on le voit bien, besoin du dernier téléphone, du dernier mascara, etc., etc. Et ça va à un rythme effréné. C'est cela une des choses, je crois, qu'il faudrait que nous ralentissions et surtout que nous commencions à penser cette distinction entre la possession de l'objet et la valeur et la dignité de la personne. Cela nécessiterait un véritable projet collectif. C'est-à-dire que nous soyons pris, je ne sais pas quel est le projet collectif aujourd'hui en France. Sortir du Covid, aller sur des terrasses et boire une bière, c'est vraiment la vie, c'est passionnant. Je suis ravie de pouvoir le faire aussi. Ça n'est pas un projet collectif suffisant pour que des gens qui sont aujourd'hui isolés et qui sentent les autres comme étant toxiques aient envie de ressortir.
André Comte-Sponville, qu'en pensez-vous ?
Oh ben je suis d'accord sur le fait que les terrasses ne suffisent pas à faire une civilisation. Hein, c'est ça tout le problème finalement. Alors moi je me méfie un peu de la notion de projet collectif parce que il n'y a de projet collectif que politique et il n'y a de politique que dissensuelle, conflictuelle. Autrement dit, il ne s'agit pas que les Français aient un projet collectif. Il n'y aurait plus de politique, on serait tous d'accord. Autrement dit, nos projets collectif, il nous oppose au moins autant qu'il nous unit. Et c'est pourquoi je préfère parler de civilisation. Au fond, la politique nous oppose, et c'est très bien comme ça. La démocratie, ça ne suppose pas l'absence de conflits. C'est une façon pacifique de gérer les conflits. Mais la démocratie ne peut fonctionner valablement, pacifiquement, que dans la mesure où, par ailleurs, nous sommes d'accord sur un certain nombre de valeurs communes qui constitue justement ce qu'on appelle une civilisation. Et ce qui m'inquiète dans l'état de notre pays, c'est d'une part que la politique est en crise, au fond elle est de plus en plus l'objet de dérision, de mépris, d'ailleurs le taux d'abstention lors des dernières élections régionales le confirme. La politique est en crise et la civilisation est en train de se fragiliser. On voit qu'il y a de moins en moins cette communion autour d'un certain nombre de valeurs communes, et donc c'est un mauvais symptôme. Alors du même coup, les gens ont tendance soit à s'enfermer dans l'auto-confinement, pour les raisons qu'évoquait Sophie Braun, soit au contraire à profiter de la vie sur les terrasses, et c'est pas moi qui le reprocherais, mais effectivement, les terrasses, ça ne tient lieu ni de projet politique, il faut parler de projet politique au pluriel, ni de civilisation, et s'agissant de notre pays, il vaudrait mieux parler de civilisation au singulier.
Bon, on va en reparler dans quelques minutes, André Comte-Sponville, vous nous direz d'ailleurs ce que vous pensez de la situation en matière d'abstention, puisqu'il va en être question dans quelques instants. Je rappelle votre dictionnaire amoureux de Montaigne aux éditions Plomb et vous, Sophie Braun, La tentation du repli aux éditions Mots Conduits. Il est 8h sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, puisqu'il était question des difficultés à se déconfiner. Et finalement, eh bien, la question de l'abstention, c'est aussi en partie cette incapacité à sortir de chez soi au sens propre, au sens figuré. Nous sommes en compagnie de la psychanalyste et psychothérapeute Sophie Braun. Vous avez publié La tentation du repli et du philosophe André Comte-Sponville, à qui l'on doit un dictionnaire amoureux de Montaigne aux éditions Plomb. André Comte-Sponville, votre point de vue sur l'abstention ?
Oh ben c'est évidemment une triste nouvelle. Faut pas non plus exempter les citoyens de leur responsabilité. Je ne doute pas que les politiques aient leur part de responsabilité, les journalistes aussi, me semble-t-il, mais au fond, c'est la responsabilité de chacun de voter ou pas. Et il est très, très déplorable de voir que 2/3 de nos concitoyens n'ont pas fait l'effort d'aller jusqu'au bureau de vote. Alors ça confirme quelque chose que moi je dénonce depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une espèce de dévalorisation de la politique. politique. Vous savez, quand j'étais jeune, on disait que tout est politique. Et la morale était une chose secondaire, une vieille lune ringarde et réactionnaire. 30 ou 40 ans plus tard, c'est l'inverse. Les gens parlent de morale très volontiers, voire étalent leurs bons sentiments à longueur de journée. Et semble-t-il, plus personne ne s'intéresse vraiment à la politique. Ce sont deux erreurs, évidemment. Il était idiot en 68 de croire que la politique pouvait tenir lieu de morale. Mmh. Il est tout aussi idiot aujourd'hui de croire que la morale, l'humanitaire, les bons sentiments puissent tenir lieu de politique. Et donc le combat que je mène, moi, depuis des années, c'est un combat pour revaloriser la politique. Et je dis toujours qu'on y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Je veux dire sur les hommes politiques. Alors, ils ont leurs défauts, ça dépend évidemment de quel homme politique on parle, mais enfin, rappelons quand même que dans une démocratie, en gros, on a les dirigeants que l'on mérite, c'est nous qui les avons élus. Et on ne fera pas croire que la France est un pays formidable de 68 millions d'êtres intelligents qui seraient malencontreusement gouvernés par un carteron de lâches ou d'imbéciles. Ça n'est pas vraisemblable, vous voyez. Et donc, je pense qu'il faut revaloriser la politique. Ça suppose le travail de tout le monde, y compris des intellectuels, et moi j'essaye d'y contribuer. Ça suppose aussi, me semble-t-il, de la part des médias, une espèce de réflexion. Moi, je suis souvent un peu agacé de voir avec quelle suffisance les journalistes font la leçon aux politiques, les prennent un peu de haut, alors qu'entre nous, soit dit, les politiques font un métier autrement difficile. Voilà, je crois que nous avons besoin de respect démocratique. Alors, l'histoire de la gifle est une anecdote, évidemment, mais qui en dit long sur cette espèce de dégradation. Et puis, il y a la place de l'humour. Moi, on peut quasiment plus allumer une radio le matin sans tomber sur un humoriste ou prétendu humoriste, parce qu'en fait, en vérité, c'est moins de l'humour que de l'ironie. L'humour, c'est rire de soi. L'ironie, c'est de rire des autres. Eh bien, nos ironistes, en vérité, ont pour principale occupation de se moquer de nos hommes politiques au pouvoir ou dans l'opposition. À la longue, ça finit par produire un effet délétère. Voilà, nous avons besoin de respect, nous avons besoin d'assumer nos désaccords. Une fois, la politique, c'est pas le règne du consensus, bien évidemment. Mais enfin, on peut combattre ses adversaires sans avoir besoin pour cela de les mépriser ou de se moquer d'eux. Et donc, de ce climat démocratique un petit peu délétère, je crois que nous sommes tous collectivement responsables et que c'est à nous tous d'y résister.
Je vais demander à Sophie Braun, psychanalyste qui est avec nous, de nous donner son point de vue, puisque finalement, vous évoquiez l'absence de désir, une forme d'aboulie contemporaine, et puis vous évoquiez aussi l'absence de projet collectif pour ces personnes que vous recevez en psychanalyse ou en psychothérapie. Est-ce que le fait justement d'avoir du mal à se projeter dans le monde extérieur a des conséquences politiques ? Est-ce que l'on parle moins de politique, pas du tout de politique.
Oui, bien sûr. Je pense que vous avez raison. C'est étonnant. J'écoutais les reportages là en me disant que quand on est psychanalyste, c'est curieux de voir à quel point on ne parle pas et on ne prend pas en considération encore la question de la vie intérieure. Comment est-ce que effectivement les individus aujourd'hui métabolisent tout ce qui se passe dans le social ? Et je pense que un des éléments fondamentaux, c'est un sentiment d'impuissance. La maladie du désir, c'est ça, c'est le sentiment d'impuissance. Pourquoi est-ce que les gens ne votent pas aujourd'hui ? Parce qu'ils ont le sentiment que ça ne servira à rien. À quoi bon ? Et il faudrait que l'on s'interroge beaucoup plus sur les causes de cet à quoi bon. Parce que qu'est-ce que ça fait, les sentiments d'impuissance ? Ça fait deux choses, je crois, à l'extrême. D'un côté, ça donne des révoltes qui peuvent devenir assez violentes. Pour des gens qui ont encore ce sentiment de pouvoir quand même un tout petit peu se révolter. Et de l'autre côté, ça donne les replis sur soi importants. Ça donne les replis sur soi de gens qui vont rester dans leur lit parce que ça ne sert à rien. Je crois que le taux d'abstention qu'il y a eu là révèle à quel point le sentiment d'impuissance est devenu fort chez nos concitoyens. Et si nous ne commençons pas à avoir une réelle réflexion, non pas sur comment on va voter, est-ce qu'il faut ou pas ajouter telle ou telle modalité ? C'est pas la question, je crois. C'est comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour sortir les individus de ce sentiment d'impuissance ? Ça, c'est le chantier qui va être fondamental au XXIe siècle. Sinon, je crois que nous allons vers des risques de catastrophe. Les gens s'individualisent, ils ont le sentiment d'exister de plus en plus et d'avoir des droits. évidemment, de l'autre côté, il faut qu'ils aient des devoirs, mais il faut aussi que nous respections cette individualité. C'est-à-dire qu'il y ait réellement des pouvoirs qui soient donnés aux individus et qu'ils aient ce sentiment de puissance sur leur monde. Sinon, et moi je vois beaucoup de patients là arriver, avec des sentiments d'impuissance, avec des angoisses qui favorisent ces sentiments d'impuissance. De toute façon, la crise écologique, de toute façon, le chômage, de toute façon, y a plus de possibilités. Et le Covid est venu ajouter à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent complètement impuissant ?
Je pose la question à André Comte-Pauville. Si vous pensez, vous aussi, qu'il y a un sentiment qui prédomine, qui serait celui de l'impuissance qui expliquerait le malaise contemporain ou bien au contraire, je ne sais pas, peut-être le retour des jours heureux, puisqu'après tout, on ne peut pas complètement écarter cette éventualité, André Comte-Sponville.
Écoutez, le contraire de l'impuissance, c'est ce que Spinoza appelle la puissance d'exister et d'agir. Conatus en latin, l'effort pour persévérer dans son être. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui de réhabiliter l'action. Le contraire de l'autoconfinement, le contraire de l'impuissance, c'est l'action. Alors Sophie Braun nous disait à propos du consumérisme, elle a bien sûr raison, que au fond le bonheur n'est pas dans l'avoir. Et ça, chacun le sait depuis longtemps. Sauf que j'ajouterais qu'il n'est pas non plus dans l'être, contrairement à la tarte à la crème que j'entends trop souvent. Parce qu'au fond, nous sommes si peu de choses, et pour si peu longtemps, on va pas passer sa vie à se contempler le nombril ou l'ego. Moi, ce que je dis, c'est que le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire, dans l'agir, dans l'action. Et tant qu'on ne prendra pas plaisir à agir, à prendre sa vie en main, la vie individuelle, mais aussi la vie collective, et c'est à ça que sert la politique, alors en effet, nous sommes voués à l'impuissance. Et je voudrais citer une formule de Montaigne, dans les essais, qui pour moi résume l'essentiel. Montaigne écrit « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. » Je crois que c'est l'une des phrases qui dit le mieux, l'essentiel. Je veux qu'on agisse. Encore une fois, il ne s'agit pas, y compris pour Montaigne, qui est presque un professionnel de l'introspection, il ne s'agit pas de se contempler l'âme, l'ego ou le nombril à longueur de journée. Nous sommes nés pour agir. Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut. Mieux vaut, plus on vivra longtemps, mieux ça vaut, tant qu'on peut le faire en bonne santé. Et que la mort me trouve plantant mes choux, c'est-à-dire en train d'agir, en train de faire votre émission de télévision, en train de jardiner votre jardin, en train de travailler, d'élever vos enfants, de voir vos amis, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. Ça, c'est formidable. La nonchalance, c'est le contraire de la forclusion. Ceux qui ne veulent jamais penser à la mort, ceux qui font semblant de ne pas mourir, mais c'est le contraire aussi de l'obsession par la mort, de l'être pour la mort à la façon d'Heidegger. La nonchalance, c'est accepter sereinement d'être mortel, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait, parce qu'il n'y a pas de bonheur parfait, il n'y a pas de bonheur absolu, il n'y a pas de bonheur pour celui qui n'accepte pas sa propre finitude, sa propre incomplétude, sa propre imperfection. Et voilà, je crois que il s'agit pas, le bonheur n'est pas dans l'avoir, il n'est pas non plus dans l'être, il est dans le faire, ça vaut pour l'individu comme ça vaut pour les peuples. Et donc ce sentiment d'impuissance que Sophie Braun évoquait bien sûr à juste titre, qui se manifeste dans l'abstention massive, je dirais, c'est un mauvais symptôme. Et donc qu'il faut faire de la politique. Quand je dis le bonheur, il est dans le faire. Ça vaut pour la vie privée, ça vaut aussi pour la vie collective. Eh bien, faire de la politique, en donnant au verbe faire son poids maximum d'action, je crois que c'est le seul chemin qui nous permet de sortir de l'impuissance.
Alors apparemment, ça fait réagir Sophie Braun.
Oui, vous avez raison, André Comte-Sponville. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut soutenir le fait de faire précisément? Moi, je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui qui précisément ne peuvent plus faire parce qu'ils ne retrouvent pas en eux ce que j'appelle de l'autorité. C'est pas la même chose que la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui effectivement vient peut-être d'un moi suffisamment fort. Aujourd'hui, les gens ne trouvent pas cette autorité à l'intérieur d'eux parce que beaucoup de choses détruisent ce sentiment de puissance. Et donc on est dans une forme de tautologie. On leur dit il faudrait faire, mais en même temps on leur donne pas le sentiment suffisamment fort d'exister et de pouvoir avoir une action sur le monde. C'est très compliqué. Je crois qu'il faut aujourd'hui effectivement relier être et faire, et ne pas les opposer. Bien sûr que tout le mouvement du développement personnel aujourd'hui, qui nous raconte qu'avec une baguette magique et deux, trois systèmes comme ça, on va réussir à être et on va chercher qui l'on est absolument insupportable. Dans mon livre, je parle de cette phrase aujourd'hui qu'on entend beaucoup, qui est « je veux devenir la meilleure version de moi-même », comme si c'était un objectif dans la vie, et en plus on se transforme en sorte de logiciel qu'on veut upgrader. On n'est pas, c'est pas ça, et bien sûr qu'on ne peut pas se contempler le nombril tout le temps. Mais... Jung a une notion qui est l'individuation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons passer de l'individualisation à l'individuation, c'est-à-dire, juste je termine, c'est-à-dire être des individus tout en étant reliés au monde et au collectif.
Mais alors, Sophie Brun, justement, si on prend les choses à l'inverse, parce que vous avez évoqué ceux qui allaient mal pendant la période du confinement et ceux qui ne s'en sortent pas si bien que ça, a contrario, ceux qui s'en sortent le mieux, qui sont-ils ?
Alors, je crois que ceux qui s'en sortent le mieux, ce ne sont pas forcément, de mon point de vue, ceux qui vont le mieux. Alors, il y a plein de cas de figure. Il y a évidemment tous les jeunes qui sont remplis de désirs de vie et qui sont très contents de retrouver de la vie et des autres. Mmh. Après, il y a tous ceux qui sont parfaitement bien adaptés au monde moderne. C'est-à-dire, effectivement, à un monde extraverti, à un monde où aller sur une terrasse et boire un verre, ça suffit. C'est Barbara Stiegler qui pose cette question. On s'adapte à un monde, mais jusqu'où on s'adapte? Et si on est dans un monde toxique, est-ce que c'est vraiment bien de s'adapter? J'appelle, moi...
Vous êtes en train de dire que ceux qui vont bien, en réalité, vont très mal, parce que dans ce cas-là, ceux qui vont très mal aussi, mais qui va bien dans votre monde?
Non, il y a des gens qui vont bien. Les gens qui vont bien sont ceux qui trouvent un équilibre entre la vie extérieure et la vie intérieure. C'est-à-dire que, effectivement, l'adaptation au monde n'est pas une adaptation plaquée, n'est pas, Winnicott dirait, un faux self. C'est quelque chose qui vient profondément de l'intérieur et qui donne cette envie dont parlait André Comte-Sponville d'agir, de faire, d'avoir une responsabilité dans notre monde. Pas seulement d'en tirer des bénéfices et pas seulement d'en profiter. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas penser que vivre, c'est seulement profiter des choses. Voilà, c'est aussi apporter sa contribution. Et quand on arrive à trouver cet équilibre qui est à la fois vivre et profiter des choses et contribuer au monde et au développement de ce monde qui, quand même, il faut le reconnaître, ne va pas très bien, alors là, je crois qu'on peut trouver effectivement un équilibre et se sentir bien. Et allez bien, on va pas tous mal.
Et vous, André Comte-Sponville, justement, si on essayait de définir pour vous ce que serait une bonne vie après donc cette période éprouvante dont on n'est pas complètement sorti d'ailleurs, mais dont on peut espérer quand même qu'on finisse par en sortir véritablement, quelle serait cette bonne vie? Comment la définiriez-vous?
Écoutez, terminons par un mot d'optimiste. La bonne vie ressemble davantage à la vie d'aujourd'hui qu'à la vie du temps du premier confinement. C'est le moins qu'on puisse dire. Voyez, donc rappelons que même s'il y a des cas qu'évoquait Sophie Brun d'auto-confinement, de difficultés, mais ces millions de gens qui prennent plaisir à se retrouver, à manger ensemble, à boire ensemble, c'est quand même une excellente nouvelle. Et puis vous savez, au début de la pandémie, certains annonçaient parfois avec des accents de triomphe dans la voix, la fin du capitalisme, la fin de notre civilisation, la fin de tout, en attendant un nouveau monde. Eh bien, constatons malgré tout que notre société a fait preuve d'une bonne solidité, d'une bonne résilience. Finalement, il n'y a pas d'autre société à ma connaissance où, en gros, on puisse tout arrêter pendant 2 mois et il n'y a pas de catastrophe absolue. La vie reprend son cours, si vous voulez. Et donc, j'ai envie de vous dire... Le bonheur, c'est d'abord d'aimer la vie telle qu'elle est. Alors, ça n'empêche pas de la changer, hein. Ça fait partie du travail de chacun, et ça vaut pour l'individu comme pour la société.
Mais c'est amusant parce que André Comte-Sponville, pardonnez-moi,
je fais ni en moi ni dans la société pour commencer à être heureux. Le bonheur, c'est maintenant, c'est pas pour dans 15 jours ou pour dans 6 mois.
Mais parce que je voulais vous citer une phrase de Freud à peu près inverse de celle-là. Et Freud disait en substance, le dépressif, c'est celui qui voit le monde tel qu'il est. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais ça, c'est une formule bien connue, qu'on trouve d'ailleurs déjà chez Nerval. Ça n'est pas tout à fait faux, mais Freud écrit aussi le mélancolique, c'est-à-dire le dépressif le plus glauque, la mélancolie au sens psychotique du terme. Le mélancolique, écrit Freud, c'est celui qui a perdu la capacité d'aimer. Effectivement, si on n'aime rien ni personne, alors il n'y a plus de raison de vivre. Et donc, en vérité, le contraire du malheur, le contraire de l'auto-confinement, c'est l'amour. L'amour de soi, bien sûr, ça fait partie du travail. L'amour des autres, l'amour du monde, et surtout l'amour de la vie. Et autrement dit, ça n'est pas parce que je vais vous laisser après, parce que vous me savez, j'ai un train à prendre. Mais
Spinoza
a écrit, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons. C'est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. Eh bien, je dirais volontiers un peu dans le même esprit, ça n'est pas parce que la vie est bonne qu'il faut l'aimer. C'est dans la mesure où nous l'aimons qu'elle nous paraît bonne. C'est pas parce que la vie est bonne qu'il faut l'aimer, c'est pour qu'elle le soit. Et ce qu'il faut enseigner à nos enfants, notamment, ce qu'il faut développer en soi et autour de soi, c'est d'abord et avant tout l'amour de la vie, mais en rappelant que, comme disait Montaigne là encore, la vie est action. Et qu'on ne peut pas aimer la vie tranquillement assis dans son fauteuil ou au bord d'une terrasse, même si ça fait partie aussi du bonheur de vivre, mais que prendre sa vie en main, prendre la société en main, ça fait partie de notre métier d'homme et de femme.
Voilà, prendre sa vie en main et prendre son train. André Comte-Sponville,
merci à vous,
bonne de journée. Nous avoir donné votre vision sur cette période que nous vivons. Sophie Braun, pour poursuivre justement sur la santé psychique et sur une bonne manière de combattre la dépression, si vous pensez d'ailleurs que celle-ci a été particulièrement prégnante, parce que on a vu par exemple, alors là aussi il y a un débat sur les chiffres, mais le nombre de suicides semble avoir été en légère diminution pendant cette période, ce qui n'était peut-être pas attendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça veut dire qu'il faut décorréler ce type de décision de la santé psychique? Est-ce que ça veut dire que finalement la solidarité a plus joué qu'on ne le pensait?
Alors peut-être le nombre de suicides a un peu baissé, par contre je pense que le nombre de tentatives de suicide a augmenté et que les urgences psychiatriques ont été absolument débordées et vont l'être encore. Le fait de rester confiné, ça a joué comme fonction un peu de contenance. Ça a permis à certaines personnes de contenir leurs angoisses. Le fait d'être moins en relation avec les autres et avec la société a permis de contenir cela. J'aime pas le terme de santé psychique. Je pense qu'on est au-delà de ça. Et c'est ça peut-être le fond de la question. La façon dont l'individu va aujourd'hui, ce n'est pas une santé psychique. C'est sa façon d'être au monde. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense qu'il est temps que nous nous interrogions vraiment sur la question de la dignité humaine et de comment est-ce qu'on fait pour respecter la dignité humaine. Parce que sinon, nous allons rester dans ces sentiments d'impuissance. Pour avoir le sentiment un peu de puissance sur son monde, pour avoir envie d'aller voter, pour avoir envie de s'engager, et André Comte-Sponville a vraiment raison, il est nécessaire aujourd'hui de s'engager et d'aller participer au monde. Encore faut-il avoir le sentiment d'être un peu reconnu. Or, je crois qu'aujourd'hui, les gens, la majorité des gens n'ont pas ce sentiment-là. Ils ont le sentiment qu'ils sont en train de brasser de l'air et qu'en fait, ça n'est jamais entendu, ça n'est jamais reconnu. Donc la question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que la majorité des gens aujourd'hui aient plus le sentiment d'être reconnus dans le monde.
Mais précisément, lorsqu'on entame une psychothérapie ou une psychanalyse avec vous, est-ce que c'est parce qu'on a ce sentiment-là de mal-être? Est-ce que c'est parce que on a envie de travailler sur un point particulier? Parce que vous décrivez les individus qui viennent vous voir, parce que c'est quand même un biais à cet égard, Sophie Braun, comme étant des gens qui ont des difficultés à se projeter vers l'extérieur, à désirer quelque chose de précis sur le long terme. Est-ce que vous pensez que c'est un trait de civilisation?
Oui, Oui, je le crois profondément. Et je crois que nous avons tous autour de nous des gens comme ça. Je crois que nous en voyons tous des gens qui, ce que moi j'appelle
les formes... Hervé Gardel.
ce que j'appelle les formes douces de repli sur soi. C'est-à-dire des gens aujourd'hui qui travaillent, qui rentrent le soir chez eux et qui soit regardent des séries en boucle sur la télé ou sur Netflix ou jouent à des jeux vidéo. C'est-à-dire que la relation à l'autre ne nous paraît plus nécessaire, elle ne nous semble plus une œuvre transformatrice. Et l'amour dont parlait effectivement tout à l'heure André Comte-Sponville, c'est comme si ça n'existait plus. Or, une vie par procuration, une vie où on regarde des gens s'embrasser dans des séries télé, ça n'est pas la même chose qu'une vie dans laquelle on embrasse quelqu'un. Ça, c'est une évidence. Mais je crois que nous sommes en train de perdre cette distinction-là et que pour beaucoup de gens aujourd'hui, regarder des gens s'embrasser à la télévision, c'est la même chose que d'embrasser quelqu'un.
Mais alors, merci pour ce diagnostic individuel.
Hervé Gardel, je crois que je vous ai reconnu dans ce portrait de manière particulièrement criante. Mais alors, pour donner justement deux ou trois conseils à Hervé et puis à d'autres personnes, Sophie Braun, est-ce qu'il est possible justement de comprendre comment dans cette civilisation, enfin en tout cas c'est le regard que vous portez sur elle, la peur de la mort, parce que ça a été cela aussi le confinement, c'est-à-dire un stress intense avec des craintes très fortes relatives à la santé tout court, puisque vous n'avez pas la santé psychique. Comment on relie les deux ?
Oui, bien sûr. Ben, je crois qu'il faut aussi parler d'un dernier point qui est quand même l'évolution technologique. Beaucoup des outils technologiques aujourd'hui servent à l'isolement, que ce soit le développement effectivement de la télévision, des séries, etc., ou que ce soit le fait de pouvoir se faire livrer quelque chose à domicile. On utilise en tout cas ces réseaux sociaux comme des tentatives d'isolement, dans le sens de s'isoler. Alors que, au contraire, les réseaux sociaux, Internet, pourraient nous servir à être beaucoup plus en lien. Et il y a énormément d'initiatives aussi aujourd'hui, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut terminer, par des tas d'initiatives, au contraire, qui servent à créer du lien et de la relation. Moi, j'ai vu beaucoup de patients, pendant le confinement, être en boucle sur Facebook, par exemple, et être dévoré par des sentiments de jalousie parce que les autres montraient évidemment dans cette vitrine qu'est Facebook ou Instagram les bons côtés du confinement, alors que, par exemple, j'avais une jeune patiente qui vivait dans 12 mètres carrés à Paris sans fenêtre ou avec un vasistas et qui regardait en boucle ses amis être avec leur famille dans des belles maisons au bord d'une piscine. C'est ravageur, ça.
Mais alors, justement, ces patients qui évoquaient cela alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent, Sophie Braun ?
Beaucoup n'arrivent pas à sortir. C'est là où la vie psychique et la vie intérieure, il faut qu'on en prenne beaucoup plus conscience et qu'on en prenne beaucoup plus compte, qu'on la prenne en considération. Ils ont mis en place des ressources intérieures pour supporter cette situation. Et on a le sentiment, on leur demande aujourd'hui, en deux secondes, de changer toutes ces ressources qu'ils ont mis en place pour ressortir immédiatement. Ça marche pas comme ça. Quand on met en place des ressources pour rester enfermé, pour rester confiné, il faut du temps ensuite. On est comme des convalescents. Hein. C'est un peu comme si on avait vécu une maladie et qu'on est des convalescents aujourd'hui. Il faut prendre du temps pour ressortir. Donc il faut beaucoup de douceur, il faut beaucoup de tendresse, il faut beaucoup de délicatesse. Et ce sont des mots qu'on a du mal à utiliser aujourd'hui. C'est presque des gros mots.
Pourquoi ?
De dire tendresse ou douceur. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'on vit dans un monde de guerre, parce qu'on élève les enfants comme si on est dans une guerre économique. Et on élève les enfants pour que ce soit des guerriers. On leur apprend à 3 ans à avoir 4 ans, à avoir 5 ans. On est content quand ils sont en avance. On est content quand ils ont des compétences qui sont supérieures à celles de leur âge. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? On leur apprend dès le début, tout petit, d'abord à ne plus être dans leur corps, mais à être simplement des purs esprits. Et d'autre part, qu'ils ne sont jamais à la hauteur d'un modèle de perfection qu'on essaye de leur imposer. Et ça, c'est particulièrement ravageur aussi pour une bonne vie intérieure un peu douce. Et je pense qu'il faudrait que nous commencions à élever les enfants un peu plus tranquillement.
André Comte-Sponville, Dictionnaire amoureux de montagne, c'est aux éditions Plon. Sophie Braun, La tentation du repli aux éditions Mot Conduit.